sur les docks. Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette.
Et aujourd'hui, c'est la suite d'hier.
Exactement. Aujourd'hui, Élise Gruau et Christine Robert nous entraînent dans la suite de cette aventure radiophonique autour du jazz, aventure qui est la fierté du service public. Alors si les premiers supports étaient si fragiles qu'une restauration était indispensable, on suivit les délicats 78 tours, puis dans les années 50, la bande 76. Le Nagra Koudelski en 51 est testé à Radio Genève, puis équipé de transistors en 1957, devenant le Nagra 3, adopté par l'ORTF. Avec lui, la bande magnétique permet des enregistrements au long cours et plus pérennes.
Alors la bande magnétique, c'était bien, mais c'était quand même le risque de démagnétisation et de partir en chandelle, comme on disait.
Oui, et on en a tous fait l'expérience quand nous nous rendions à l'INA pour écouter des archives. Mais aujourd'hui, un travail de conservation y a été entrepris. C'est à une promenade de santé parmi ces archives de l'INA que nous sommes conviés en compagnie d'Annie Lozana. Voilà.
Oh, des bandes.
Voilà, le Stangate, c'est sur bande.
Mais ici, il y a moyen, là. Ah bon, oui, il y a
oui.
Un magnéto derrière.
Il y a tout ce qu'il faut comme matériel.
Eh bien, écoutez, qui c'est qui a écrit ce papier-là, là ?
Ah, est-ce que c'est pas vous ?
C'est pas moi, non.
Alors, c'est le 388.
Il y a marqué annonce André Francis, il y a... c'est émouvant.
Le jazz, une aventure radiophonique. Élise Gruau.
Ah ben voilà l'équipe.
Claire Levasseur. Christine Robert et Jean-Pierre Pernel.
Voilà la fine équipe.
Voilà, bonjour Annie. Bonjour André.
Bon, on est en train de faire des découvertes. Alors là, je savais plus que ça pouvait encore être possible d'être retrouvé. Mais bon, il y a des miracles.
Deuxième partie. 70 ans d'archives, une mémoire vivante.
Bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs.
Alina, en cabine d'écoute.
C'est moi. C'est donc la seconde fois que nous allons accueillir ici même Stan Getz. Il était venu il y a 3 ans et il était accompagné par Stanley Cowell, Miroslav Vitus et Jacques de Jonnette. Il va aujourd'hui nous prouver, mais est-ce nécessaire, que nous avons en Europe, que nous avons en France aussi d'excellents accompagnateurs, puisque c'est en compagnie de René Thomas à la guitare, d'Eddie Louis à l'orgue et de Bernard Luba à la batterie qu'il va se présenter ce soir devant nous. Ils m'ont entendu, j'espère qu'ils vont venir, mais tout cela se passe d'une manière très, très, très relaxe dans les coulisses. Je répète que j'ai annoncé Eddie Louis à l'orgue. Il était en retard, il avait oublié.
Parce que Getz a travaillé pendant un an et demi avec 3 musiciens.
Eddie Louis à l'orgue.
Qui était Eddie Louis.
René Thomas.
Oh, René Thomas à la guitare. Et puis
oui,
Bernard
René
Luba
Thomas,
à
voilà.
La batterie.
Bernard Luba à la batterie. Et au saxophone, celui qui est absolument le meilleur spécialiste blanc de l'instrument, Stan Getz.
Alors, c'était en quelle année ? C'était...
Ça devait être en 72 ou 71, quelque chose comme ça.
Grâce au progrès des moyens techniques et des supports d'enregistrement, la radio publique a accompagné l'essor du jazz en France en enregistrant les concerts des plus grands musiciens de passage à Paris et dans les festivals, qu'elle retransmettait au fil des émissions. Dans les studios de la Maison de la Radio se sont produits les plus grands, et c'était aussi l'occasion pour les jeunes musiciens français de se produire en public et de se faire connaître. Ainsi, du New Orleans au free jazz en passant par le bebop, ce sont 70 ans de jazz qui sont conservés dans les archives de la radio. Un art dont les heures de gloire sont aujourd'hui patiemment restaurées par les équipes de l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est avec André Francis, producteur qui s'occupa du bureau du jazz à la radio jusqu'en 1997, et avec les musiciens Bobby Few et René Urtreger, que nous partons à la redécouverte de ce fonds d'archives exceptionnel.
Je je réécoute ces enregistrements-là, ça ne me fait pas vibrer, ça me rajeunit. Ce qui m'étonne, c'est que je redécouvre un Stan Getz différent de ce qu'il a été tout au cours de sa carrière. Peut-être que la prise de son qui accentue un peu les aigus nous donne une autre idée de sa sonorité profonde, mais même le phrasé avec les musiciens qui l'accompagnent est différent de ce qu'il l'avait fait avant, de ce qu'il a fait après. Et là, Getz, c'est un autre Stan Getz. Quand je découvre ça avec simplement une seule audition, qu'est-ce que ça serait si on en écoutait d'autres ?
Allons-y.
Bon, je vois des concerts, des nuits entières du jazz qui ont été conservées, dont je n'ai même plus moi-même souvenir interne et même le souvenir écrit sur des carnets.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut écouter encore ?
Là, je vois dans cette liste, tout d'abord, concert de Louis Armstrong en 1948. C'était un des bons orchestres qu'il a dirigé avec Earl Hines, avec Bernet Bigard. Il revenait du festival de Nice.
Vous allez entendre le club du jazz.
Et c'était quelques jours après le concert fabuleux, phénoménal, de grand orchestre de Dizzy Gillespie. Bah justement, débat autour du concert de Dizzy Gillespie, le club du jazz. Il y a même Dizzy a été interviewé, je ne me souviens plus du tout de ça. Le 29 mai 1948, diffusion le 8 juin, c'est sorti de ma mémoire. Pour moi, le grand premier concert que j'ai vu enregistré par la radio, c'était en 1948, un concert à la salle Pleyel avec le grand orchestre de Dizzy Gillespie, qui a frappé de manière magistrale tout le public qui s'y trouvait. La radio le diffusait en direct, mais n'avait pas les moyens de l'enregistrer elle-même en studio. Donc c'est un amateur qui habitait à Meudon qui l'a enregistré d'une manière très artisanale sur un graveur de disques qu'il avait. Et grâce à ces copies qu'il a pu faire, par la suite on a pu rééditer et faire des disques sur ce concert absolument fabuleux. C'est aussi le premier festival de jazz qui s'est déroulé à Nice. C'était un festival de jazz tout à fait traditionnel, organisé par les membres du Hot Club de France de M. Panassier, alors qu'à Paris, le Hot Club de Paris, qui était moderniste et bebop, a organisé le concert de Dizzy Gillespie. À Nice, c'était Louis Armstrong avec un très bel orchestre, un des meilleurs qu'il ait dirigé depuis les dernières années de sa vie. Enfin, à partir de 1948, il y a eu un peu plus d'enregistrements parce qu'il y avait un peu plus de concerts. Et les premiers dont j'ai eu la responsabilité pour enregistrer, ça a été cette même année 48, où au mois de mai ou au début juin, je ne sais plus exactement, le Hot Club de Paris et de Londres ont organisé un petit festival au Théâtre Marigny, dont les vedettes étaient un grand saxophoniste ténor qui avait travaillé avant-guerre en France et qui est revenu, qui s'appelait Coleman Hawkins. Et pour la première fois, nous avons eu un jeune pianiste qui nous a éblouis et qui s'appelait Errol Garner. On ne l'avait pas entendu auparavant. Et je me souviens d'une soirée où Hawkins et Garner ont joué ensemble d'une manière absolument magnifique. Ça a été enregistré. Malheureusement, ça a été perdu. Les disques, les premiers disques qu'on commençait à graver dans les studios de la radiodiffusion française ont été égarés. Moi-même, j'en ai possédé quelques gravures, mais c'était sur des disques en acétate. À l'époque, on écoutait avec des aiguilles d'acier ou des aiguilles en bois taillées. Le son était médiocre et ça labourait le sillon du disque. Ce qui fait que maintenant, j'ai un tas de poussière en rond et j'ai plus de son. Et voilà des albums, des disques, la marque Capitol, Local 802 Blues par le Metronome All-Star. Et regardez, c'est affolant. Il y a des poussières qui se mettent sur le disque. C'est blanchâtre. Je les regarde. Heureusement, j'ai une assez bonne mémoire. Je prends un disque et je réentends cette musique. Bon, à l'origine, vous les avez sur disque ou
oui,
sur bande?
Les deux. On les a deux. Sur 78 tours jusqu'à à peu près le début des, la fin des années 40 et le début des années 50. Mmh. Sur les disques 78 tours, on n'a parfois que des extraits.
Annie Lozana, documentaliste du fonds INA Jazz.
Et les émissions étaient faites en direct sur les ondes et qui, elles n'étaient pas forcément enregistrées dans leur intégralité parce qu'un disque 78 tours, sur une seule face, on n'a que 3 ou 4 minutes. On a enregistré beaucoup de reportages avec des interviews de quelques minutes. Et puis des extraits musicaux de quelques minutes qui correspondent à des phases de disques en fait. Mmh. Jusqu'à ce que la bande 76 fasse son apparition. Donc là, à partir de 53-55, je commence à avoir de la musique un peu plus longue et qui devient vraiment plus représentative des émissions de jazz de l'époque.
Alors voilà, donc on a donc une bande 76 qui, on voit, est très sèche. On sent cette petite odeur un peu vinaigrée, quoi, qui est propre vraiment à la bande. On imagine que cette bande, elle est restée enfermée dans sa boîte depuis pas loin de 50 ans.
Alina, dans l'atelier restauration des archives sonores. Jonathan Fitoussi.
C'est quasiment notre quotidien, nous, hein, quand on reçoit des bandes ici. En général, elles ont été diffusées une fois et elles sont après restées rangées en magasin. Et quand elles arrivent chez nous, bah, elles n'ont pas vu le jour depuis parfois 60 ans. Donc ça nécessite aussi beaucoup de précautions dans la manipulation des supports. Il faut faire attention à tout pour la transporter jusqu'au magnéto. Une bande comme ça, ça peut bien se passer, ça peut aussi très mal se passer, et chaque seconde, chaque mauvaise manipulation peut entraîner beaucoup de temps après de récupération, quoi. Parce qu'elle pourrait vraiment, avec le noyau, on pourrait vraiment avoir un effet serpentin, c'est-à-dire vraiment elle va pouvoir se défiler vraiment complètement et partir en chandelle. Les bandes magnétiques, donc, vraiment sont arrivées, je fais un petit historique du support rapide, hein, ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins d'espionnage. 48, on commence à avoir de la bande magnétique et elle a été utilisée jusqu'au début des années 2000, hein, à Radio France, on utilisait encore de la bande magnétique fin des années 90 et début des années 2000. Donc, c'est vraiment le support audio qui a eu vraiment la plus longue durée de vie. J'entends le support physique qui a eu la plus longue durée de vie d'utilisation. La grande évolution qu'il y a eu sur les bandes magnétiques, c'est les variations de vitesse. Au tout début, on ne savait pas enregistrer autrement qu'en 76 cm seconde. Donc on imagine 76 cm de bande pour une seconde de son. Donc on a vraiment des grosses bobines comme ça, qui font à peu près la taille d'un disque vinyle, et sur lesquelles on va avoir 10 minutes de son à peu près. C'est des bandes en fait qui sont extrêmement fragiles. Faut rester vraiment très vigilant quand on lit ces bandes parce que du coup elles défilent très très vite sur les magnétos.
Du jour où le magnéto est arrivé, alors là, ça a été le changement total. Il a d'abord été consacré à la télévision. On avait des bandes qui étaient au moins hautes de 12 à 15 cm. Pour les couper et les enchaîner, ça demandait un quart d'heure où on était forcé de mettre sur les bandes de magnéto de la poudre de magnétite. Fallait qu'il y ait une aiguille se mette particulièrement dans un sens pour voir où on pouvait couper et coller ces bandes-là. Ça n'a duré qu'un an, mais c'était d'une complication et d'une difficulté énorme. Puis la bande s'est rétrécie, elle a été ce qu'elle a été pendant des années, avec lesquelles j'ai travaillé longtemps.
C'est c'est vraiment l'arrivée de la bande magnétique qui crée une révolution dans l'écriture radiophonique. La bande magnétique a permis de faire vraiment tout ce qu'on fait aujourd'hui, couper, copier, coller, voilà, prendre un élément d'une bande, le copier sur une autre, insérer une musique au milieu d'une interview, voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui en informatique avec la souris, je veux dire, tous les processus basiques, la bande l'a permis, ce qui n'était pas le cas du disque, c'est-à-dire que quand le disque était gravé, on ne pouvait pas réeffacer.
Donc avec la bande magnétique et avec les collants, naissent le montage.
Voilà, exactement.
Tous ces problèmes de matériel faisaient qu'il y avait surtout des reportages dans les années 40. Quelques concerts sur disque 78 tours qui sont exceptionnels vu les matériels. Et puis évidemment, quand la bande magnétique arrive dans les années 50, les matériaux deviennent plus légers. Et là, forcément, on a tendance à aller enregistrer beaucoup plus facilement des concerts dans leur intégralité. J'en ai pas encore beaucoup dans les années 50, mais à partir de la fin des années 50 et au début des années 60, là, c'est l'explosion vraiment. Tous les musiciens américains venaient jouer à Paris, quasiment tous, les Thelonious Monk, les Chet Baker, tous ces gens qui venaient, qui faisaient des tournées en Europe et en France, et ils allaient les enregistrer dans tous les festivals, parce que c'est vrai aussi que la France a très vite proposé des festivals de jazz. Très très vite, il y a eu Nice, il y a eu Cannes, et ensuite il y a eu quand même Antibes, Cannes dans les années 50, et ensuite il y a eu Antibes Jean Lépin. Et là, la radio y était tous les étés, tous les ans, ils allaient enregistrer tous les musiciens qui passaient, toutes les formations, absolument tous.
Le festival de Barsiac, si Radio France n'avait pas existé, Barsiac n'aurait pas existé non plus. On les a aidés dès le second festival, on les a fait connaître et maintenant c'est un des festivals les plus importants du monde. De même, un autre festival important qui existe aujourd'hui doit un peu à Radio France et à la télévision, enfin ce qu'était le RTF, d'exister, c'est le festival de Vienne. Vienne et Barsiac sont aujourd'hui les deux festivals en France les plus importants.
Nous allons jouer, pour terminer, une très, très jolie composition de Gordon Beck. C'est une suite, ça s'appelle Blackbird's Beacons.
Didier Lockwood, enregistré par Radio France à Marciac en 1986.
J'étais le présentateur des concerts au festival d'Antibes Jean Lépin pendant près de 35 ans. Et voilà, et voilà. Tous les ans. Moi, en 97, les dernières années où j'ai fait enregistrer, en 97, le festival de Marciac, Arturo Sandoval, Tito Puente, B.B. King, Ricardo Delfra, Ray Charles, Benny Wallace, McCoy Tyner, Guy Lafitte, l'ONG de Roland Cuny et Wynton Marsalis. Magnifique série de concerts. Et Lavelle et Jackie Terrasson et Didi Bridgewater au festival de Marciac de 97. Herbie Hancock, il y en a, Bill Jackson, Abad Jamal, Don Byron, c'est affolant tout ce que l'on pouvait faire. Ah là là, que de beaux moments. Pas de pitié.
Il y a Château-Vallon, Grenoble, enfin Nancy, Jazz Fusion de Nancy, etc. Après, tous les festivals se sont développés et plus ça a été et plus la radio est allée enregistrer les festivals et tout ce qui pouvait se passer comme concert. Il y a eu l'espace Cardin. Et puis aussi, il faut dire qu'à la construction de la Maison de la Radio, ce qui est très important, c'est qu'on offre des studios publics. Et André Francis essaye de faire venir tous les musiciens qu'il peut, à la radio même, dans les emprises de la Maison de la Radio, donc avec les techniciens de la radio et les moyens techniques qui ont toujours été très très performants. Et là, on a vraiment des concerts dits maison, c'est-à-dire au 105 au Charles Trenet ou au 104 à l'Olivier Messiaen, on a quand même des concerts absolument fabuleux. Il est payé pas cher, parce qu'ils n'avaient pas énormément de moyens pour payer les musiciens, mais ils acceptaient de venir pour jouer à la radio, hein, ça c'est vraiment...
À la salle 105, qui est devenue le studio Charles Trenet, à la salle 104, j'y ai fait des centaines de concerts. Écoutez, je regardais l'autre jour, j'ai fait enregistrer, tout au long de mes 50 années de radio, 8267 orchestres. C'est vous dire qu'il y a quand même beaucoup de concerts.
C'était drôle, c'était, on a joué alors à la Maison de la Radio.
René Urtréguer.
Au bord de la Seine. Un jour, on joue avec les double six. À un moment, j'ai joué avec les double six au piano. Et on avait une bonne section rythmique, donc vous connaissez le principe des double six. Ils recréaient des airs de jazz célèbres avec leur voix. Ils étaient six, trois garçons, trois filles. Pour recréer l'ambiance du grand orchestre, si vous voulez. Bon, pour les 10, c'était, ils faisaient ce qu'on appelait des recordings, chacun reprenait plusieurs voix. Enfin, c'était compliqué, mais il fallait des chanteurs costauds, enfin, techniquement. Et c'était le cas des double 6. Et donc, on joue un concert, et je me rappelle qu'en première partie, c'était la première visite en Europe, en France, de Bill Evans.
Accompagné au piano par René Urtréguer, à la contrebasse par Guy Pedersen et à la batterie par Daniel Humer, c'était les double six de Mimi Perrin, Jean-Claude Briodin, Bob Smart, Louis Aldebert, Claudine Barge, Monique Aldebert et Mimi Perrin. Mais après ces classiques de la musique de jazz moderne, transposés dans le domaine vocal, voici maintenant le trio de Billy Vance. Le grand pianiste américain s'est présenté à nous accompagné par Chuck Israel à la contrebasse et par Larry Bunker à la batterie. Il improvise tout d'abord sur un thème qui à l'origine n'avait rien d'un thème de jazz, mais qui l'est devenu grâce justement à des artistes comme Billy Vance, « Someday Mike Prince Will Come ».
C'était ma voix. C'était en seconde partie d'un concert où il y avait un groupe vocal et après il y avait un nouveau pianiste que l'on m'avait reproché en haut lieu d'engager. On le considérait, entre guillemets, comme un pianiste de bar.
Concert du trio de Bill Evans, enregistré le 13 février 1965 à la Maison de la Radio.
Tellement impressionné, on était impressionné, quoi. On savait qu'il y avait Bill Evans, on savait quand vous êtes artiste, que vous croisez, ne serait-ce que dans le couloir, dans un les coulisses d'un endroit où vous allez jouer, que vous croisez quelqu'un que vous admirez, ça vous fout un choc, quoi. Savoir qu'il y avait Bill Evans Trio qui jouait une musique raffinée pour l'époque. Bill Evans, c'est pour moi, c'est peut-être pas le plus grand musicien de jazz que la Terre ait porté, mais c'est sûrement le plus grand harmoniste, un des plus grands harmonistes qu'il y a eu dans la musique de jazz. Il est pas loin du niveau de gens comme Maurice Ravel, de gens comme ça, je le pense honnêtement. C'est du très très haut niveau. Il a donné un concert absolument magnifique, créatif, d'une sensibilité beau-doigtée, belle invention, bel esprit, qui a quand même touché tout le public. Ils ont eu énormément de succès. Nous avons été forcés, 8 jours plus tard, dans la même salle 104, de réorganiser un autre concert pour le faire entendre à nouveau. Et des musiciens, des critiques, se sont tout de suite mis en action pour dire un nouveau pianiste est entré dans l'histoire du jazz. On le connaît parce qu'il a travaillé avec Miles Davis, parce qu'il a travaillé avec d'autres solistes, mais maintenant qu'il est en trio, c'est un autre homme, il faut le découvrir. Chose qui me surprend un peu, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, grâce à des progrès techniques très importants, on aurait donné un autre volume au trio et le long et superbe solo de contrebasse aurait eu plus de relief, un peu plus de grave, mais à l'époque, on n'avait pas les micros satisfaisants. Il y avait simplement un micro qui était placé soit dans le chevalet de la contrebasse, soit devant, et ce n'était pas suffisant pour équilibrer le travail très dense, très rebondissant du batteur. La prise de son date, elle était la meilleure qu'on pouvait faire à l'époque, mais aujourd'hui on pourrait faire bien mieux.
Et voici maintenant le quintet de Stan Getz. Le quintet de Stan Getz avec René Hurtreger au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, Jimmy Gourlay à la guitare, Kenny Clarke à la batterie et Stan Getz au saxo ténor.
Enregistré en 1959.
Maintenant, c'est très difficile, je parle en anglais. And now, Stan, what are you going to play? Ce qui veut dire qu'allez-vous jouer?
Maintenant, nous allons jouer Lady Bird.
Européen, français, et c'était très 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 impressionnant. Mais j'avais un petit peu, je m'étais déjà frotté à des grands musiciens. J'avais la chance d'être toléré, quelquefois même enfin, demandé par des musiciens importants. Et je suis pas très doué pour le piano, mais je suis doué pour le jazz.
Dans les années 50, à Paris, ça regorgeait de clubs, de cabarets, de caves de jazz. Quelle était l'ambiance dans ces lieux de jazz à Paris que vous fréquentiez en tant que jeune pianiste?
Beaucoup de clubs de jazz où on était très mal payés, souvent de la main à la main. On ne savait pas ce que c'était qu'une fiche de paye, une retenue sur le salaire, je sais pas. Mais on s'amusait bien. Il y avait beaucoup de musiciens merveilleux qui sillonnaient l'Europe ou le monde, et des Américains, mais des grands Européens aussi, et des grands Français, des Suédois, Et comme ça, il y avait un heureux mélange. Et on peut parler d'âge d'or de jazz à cette époque-là. C'était un joyeux boxon, allez.
En 1959, vous jouez René Hurtreger avec Stan Getz.
Bah, vous m'apprenez que c'est en 59, mais je me rappelle avoir joué beaucoup avec Stan, ouais, qui reste toujours un de mes saxophonistes favoris. Quoi. Ça venait de nos années Blue Note. Là. Le Blue Note, le fameux Blue Note, ça a été un grand, grand club de jazz parce que le patron qui était américain, qui s'appelait Ben Benjamin, qui était un ancien GI, resté en France, en Europe, il a compris qu'il y avait un public déjà pour le jazz, mais qu'il fallait quand même présenter la chose d'une façon un petit peu moins olé-olé que laisser-aller qu'à la française, et qu'il a américanisé un petit peu la chose. C'est-à-dire qu'il invitait, par exemple, au Blue Note, il avait une section rythmique de base qui était tenue souvent par Kenny Clarke à la batterie, grand batteur. Il y avait Jimmy Wood ou Pierre Michelot à la basse, il y avait... ou Jean-Marie Ingrand, il y avait moi au piano. Au piano, il pouvait y avoir des gens comme Bud Powell, carrément. Mais donc, il avait une assise comme ça, et il faisait venir, par exemple, pour une semaine, Stan Getz, ou Lester Young, ou Chet Baker, ou des gens comme ça, voilà, qui venaient. Et par exemple, il y avait aussi une chose, il avait sûrement un système de rabattage, parce que quand il y avait un grand concert à la salle Pleyel, qui n'était pas très éloignée, à Pleyel ou à Chaillot, quoi, quand il y avait un grand concert, débarquer vers 11h30 minuit, les musiciens qui avaient joué à ce concert, on pouvait voir débarquer les big bands de Lionel Hampton avec des gens qui étaient encore inconnus, mais qui étaient déjà des monstres de la musique, comme Quincy Jones ou Clifford Brown, par exemple. Ils venaient et ils jouaient avec nous. Alors, ça donnait du cachet au Blue Note. On savait qu'il allait se passer quelque chose de haut niveau, quoi, sur ce plan-là. Ah oui, oui. Il y avait des jam sessions tout le temps, et puis où on écoutait, où on jouait. Mais c'était, il y avait une vie incroyable, musicale. Moi, il m'est arrivé une fois, par exemple, c'est une anecdote, il n'y avait pas une guéguerre, mais enfin, je me rappelle qu'une fois, il y avait Stan Getz qui jouait, je crois que ça devait être Martial Solal au piano, et je ne sais plus qui était à la batterie, et la basse, j'oubliais franchement. Mais il y avait Stan Getz, qui était un grand, célèbre... musicien américain, il vivait en Europe. Et devant moi, j'étais au fond du club, et devant moi, ils n'avaient même pas enlevé leur manteau. Il y avait comme deux des plus grands saxophonistes de jazz, c'était Sonny Stitt et Coleman Hawkins. Ils n'avaient même pas enlevé leur manteau, ni leur chapeau. On aurait dit des gangsters. Ils étaient là avec leur saxo, et ils étaient là, je les entendais marmonner, maugrer. Genre, on va sortir nos saxons, on va lui régler son compte à ce petit con, un truc comme ça. C'est drôle. Enfin, moi, ça me fait rigoler.
La première fois que je suis venu, c'était différent. Super grand. J'ai joué beaucoup de concerts ici.
Est-ce que vous connaissez le chemin pour arriver au studio 104?
Non, j'ai oublié. J'ai vraiment oublié.
Je me souviens. Je me souviens quand j'ai joué ici, bien sûr.
C'est bon, émotion.
Wow. Quand est-ce que vous avez joué ici, Bobby Few, dans le studio 104?
Dans les années 87, peut-être, 89.
Dans les années 87 ou 89.
With the Frank Wright Quartet.
C'était avec le quartet de Frank Wright.
Je me souviens
un concert, c'est incroyable. Avec un clown et me on piano.
Je me souviens, un clown et moi au piano.
And we did it for, I think it was an hour.
On a joué une heure et demie.
And a half. It's called The Circus Is Fun.
Ça s'appelle Le Circus Is Fun.
I think that's the one of the concerts that I remember the most.
C'est un des concerts dont je me souviens le mieux.
Yeah.
Concert de Bobby Few, Circus Is Fun, Studio 104 de la Maison de la Radio. Enregistré le 16 mars 1993. Vous êtes arrivé en 1969 à Paris.
Oui.
Vous êtes un Américain venu vous installer en France. Oui. Et pourquoi un musicien de jazz comme vous, Américain, on imagine qu'il trouve tout ce qu'il faut aux États-Unis, vient s'installer à Paris pour faire de la musique?
Ah, c'est intéressant. Parce que dans les années 60 jusqu'à 62, j'ai joué à New York. Et il n'est pas encore le travail pour moi et pour les musiciens que je travaille avec. Frank Wright, Alan Silver, Noah Howard et Muhammad Ali on drums. And one day,
un jour nous nous sommes dit,
we're going to have to leave New York.
Il faut qu'on parte de New York.
There's no work.
Il n'y a pas assez de travail.
So Frank,
alors Frank Wright a
tenor player, il a dit, well, what about Paris?
Allons à Paris.
And we said, Paris? Said, well, we don't know anybody. We don't speak the language.
Sylvain a dit Paris, on ne connaît personne, on ne parle pas la langue.
Let's go anyway.
Mais allons-y.
And so about a month later, we all packed our bags.
Et un mois après, on avait fait nos bagages.
And came to Paris.
On a pris l'avion et on est arrivé à Paris.
We don't regret it.
Et on n'a pas regretté.
It was beautiful to experience the
c'était une expérience magnifique.
The audience was
le public était
more
plus réceptif,
there was more work.
Il y avait plus de travail,
there were many places to travel,
et beaucoup de villes où aller.
Amsterdam, Germany,
Amsterdam,
Italy, Spain,
Allemagne, Italie, Portugal. Espagne, Portugal.
And we did it all. We did it all.
So on est allé partout.
We said, now I know why we came.
On s'est dit, maintenant on sait pourquoi on était venu à Paris.
To experience a new well, to experience a new life for the
pour expérimenter
music.
Une autre façon de vivre la musique.
Explore, we were explorers.
Nous étions des explorateurs qui cherchent la nouveauté,
Magellan
comme Magellan.
Other people were explorers. They wanted to see what was new.
Et c'est ici à Paris
so
que nous l'avons trouvé.
We found it, and we found it here in Paris. That's why we came.
C'est pour ça qu'on est venu.
Le boîte de jazz, le concert, c'est très, très enthousiastique. Un public, pas comme en Amérique, les jury en Amérique, and they, you know, now and then, applaudissent, mais ici, c'est un grand wow, you know. We were playing really the free jazz, as they called it.
On jouait vraiment du free jazz.
Nobody really knew about this kind of music until we came.
Et personne ne connaissait encore cette musique.
We opened the whole door to
nous avons ouvert grand les portes de cette musique
Frank Wright Quartet.
Avec le quartet de Frank Wright.
Est-ce que vous avez joué souvent à la Maison de la Radio, Bobby Few?
Yes, beaucoup de fois. André Francis a organisé un concert. Et Maurice Coulez aussi organisait un concert.
Il était comment ce personnage, cet André Francis?
Très gentil, mais il toujours dit Bobby Few, just before I would play, avant de jouer, il would dit Bobby Few, no free jazz.
Bobby Few, pas de free jazz.
Oh, André.
Et je disais, oh, André.
Il disait, no free jazz. I said, OK.
Je disais, OK.
Of course,
mais bien sûr, je jouais free. You know? C'était ma musique. Je ne pouvais pas jouer autre chose.
It was my music and I couldn't do anything but play what I wanted to play. You know? Yeah.
Alors si vous le voulez, on va écouter maintenant le musicien qui est le plus à l'extrême avant-garde de ce free jazz. Voici ce que Albert Ahler a présenté au public de la salle Pleyel en novembre 1966 lors du 3e Paris Festival. Le morceau s'intitule « Holy Ghost, le Saint-Esprit ». Albert Ahler est saxophoniste ténor. Il y a à côté de lui un trompettiste, Donald Ahler. Ce sont deux musiciens noirs. Il y a deux musiciens blancs, Michael Sanson qui est violoniste et William Forwell qui est contrebassiste. Et un batteur qui est un noir, Beaver Harris.
Concert débat de France Musique, diffusé le 1er février 1968. Producteurs Lucien Malson et André Francis.
Est-ce que le jazz aujourd'hui est en train de changer de nature ou d'essence, comme vous voudrez dire? Ça, c'est possible, mais je voudrais demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Et André Francis, peut-être, car il a le droit de s'exprimer, André Francis.
Non, ce que je voudrais répondre, c'est que si vous posez cette question, si vous faites ce reproche aux musiciens du free jazz, et encore, je crois qu'on ne peut pas parler de free jazz, car il n'y a pas d'école free jazz, il y a énormément d'individualités que l'on range sous un même nom. Mais si vous leur posez cette question, si vous leur dites qu'il n'y a pas de swing dans votre musique, ils nous répondront, ils m'ont répondu plusieurs fois, c'est parce que vous n'êtes pas sensible à notre manière de swinguer, d'être détendu par rapport à une attaque qui n'est pas celle... c'est ce qu'ils m'ont répondu.
C'est autre chose.
C'est autre chose, mais enfin, nous avons une conception du swing, ils en ont une autre, qui est conditionnée par une autre manière d'exprimer leur musique.
Oui, mais enfin, il y a tout de même une vérité qui est définie par l'intersubjectivité. Je suis tout prêt à dire que je me suis trompé dans 10 ans et que je vois une détente absolument fantastique dans cette musique-là. Je serais tout prêt à faire un mea culpa public, je n'en suis pas à un prêt.
Nous n'allons pas pousser l'audition beaucoup plus loin, premièrement parce que notre temps d'antenne est limité, deuxièmement parce que les personnes qui étaient les plus violemment en contre ont déjà quitté cette salle, alors nous n'avons plus à les convaincre. Mais vous avez quand même certainement des opinions sur cette musique, mademoiselle.
Je voudrais savoir pourquoi on appelle cette musique du jazz.
Mais c'est eux qui l'appellent du jazz, on ne nous a pas dit que c'était nous déjà.
Ah bon. Bon, c'est tout.
Pour ce qui est d'Albert Ahler, il se veut musicien de jazz. Bon, de toute façon, les opinions des musiciens de jazz, il ne faut pas toujours en tenir compte. Depuis Charlie Parker, qui a répondu qu'il ne faisait pas de la musique de jazz, il y a déjà eu une guerre du jazz, et n'essayons pas d'en faire une nouvelle.
Oui, mais là, vous avez des choses extraordinaires. Le trio de Ornette Coleman, le concert au studio 104 avec le quartet Circle de Chick Corea.
C'est le 21 février 71 au 104, et donc, j'ai marqué Brève annonce en américain par Chick Corea et André Francis parle des divers problèmes techniques qui ont eu lieu, réaction du public, intervention de Chick Corea qui présente les musiciens.
Ben, nous écoutons et je reviens. Je ne souvenais pas à quel point, dès le début du concert, cela pouvait être aussi magnifiquement lyrique. On l'a enregistré de nombreuses fois chez Correa, à chaque fois, c'est un caméléon, il était différent. Merci d'avoir retrouvé ça.
Alors.
Oh, Hermeto Pasquale. C'est celui qui a eu lieu au studio 104 à la Maison de la Radio. Mais un personnage phénoménal, drôle, créatif, jouant de la flûte, du saxophone, du piano, enfin, tous les instruments y passaient et les jeunes musiciens brésiliens qui étaient avec lui étaient tellement à son service, savaient exactement ce qu'ils devaient faire que l'orchestre fonctionnait à la perfection. Et c'était une joie, c'était peut-être pas extraordinairement intellectuel, mais c'était... très profondément rythmique, c'était un rythme qui vous faisait, qui vous donnait des ailes, qui vous faisait sauter à l'intérieur de mélodies très, 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 très lyriques, très mélodieuses, brésiliennes.
Vous voulez écouter un extrait?
Il est là.
Ce concert du 104 avec Herberto Pasquale, on sait quand les concerts débutaient, on ne sait pas quand ils se terminaient, s'il sentait une bonne réceptivité du public, il aurait pu jouer toute la nuit. Or, nous étions à la maison de la radio et la salle 104, elle est faite pour être fermée au plus tard, 23h30. Dès 23h25, les responsables de la sécurité, écoutez, on va baisser les lumières, c'est pas possible, on ne peut pas accepter que le public reste. D'abord, nous, à minuit, nous partons, ils baissent les lumières, et Herberto Pasquale, suivi de ses musiciens, sort de la salle 104, traverse l'avenue du président Kennedy, va sur l'île des Cygnes, et pendant une demi-heure, il a fait danser tout le monde. Et quand ils sont revenus, toujours continuant à jouer, avec le public derrière, qui dansait, qui criait, qui chantait et tout, toutes les portes étaient fermées à la maison de la radio. Certains avaient laissé leurs affaires ici. Bon, il y a eu des problèmes, on a pu faire ouvrir, ils ont pu récupérer. Mais plus jamais on ne m'a permis d'engager à la maison de la radio Herberto Pasquale. De belles choses, oui. Là. On ne sait plus quoi vous demander, on ne sait plus où aller. Attendez, je vais regarder ça à nouveau. Jacques de Jonnet. Oh.
Voilà, je l'ai en bande aussi, celui-là, il n'est pas encore numérisé.
Ah bon.
Ça viendra, comme les autres.
Jacques de Jonnet, quel concert. Là aussi, il devait avoir lieu à la salle 104. Et au moment où nous commençons à répéter, à 17h, le directeur de la musique vient nous dire que on ne peut pas bénéficier de la salle 104 alors que toutes les places étaient louées parce qu'il y avait une répétition d'un orchestre symphonique qui était en retard. Et on nous renvoie à la salle 105. Alors, en dépit des consignes de sécurité, les 1000 personnes qui pouvaient tenir dans la salle 104 ont toutes, où pratiquement tout était mis dans la salle 105, où il y a 300 places. Alors, les gens étaient sur scène, les musiciens ont eu du mal pour trouver un peu de place pour jouer au milieu de la scène, et le concert s'est déroulé, je ne sais plus de quelle manière, je ne m'en souviens pas du tout, mais je me souviens des difficultés de placer, sans que le service de sécurité y voit quelque chose, y voit à redire, 1000 personnes dans une salle de 300. C'était donc... Jacques de Jonnet, en 1976.
Alors là, je suis en train d'essayer d'ouvrir, voilà, le plastique qui retient les matériels, parce qu'en fait, ce concert est sur 5 bandes différentes. Voilà, peut-être aussi c'est votre écriture, je ne sais pas du tout. En tous les cas, il y a les informations dans la boîte.
Et ça, oh, vous conservez vraiment tout.
Absolument tout.
Mais là, c'est l'original, c'est pas une émission. Là.
Non, là, c'est l'original, oui, c'est ouais. Le concert.
C'est là un moment où le free jazz nous montre qu'il n'est pas si libre que ça, mais qu'il est totalement inventif. Et le démarrage par un long solo de Jacques de Jonnet
pour moi, compte énormément dans sa carrière. Il a beaucoup enregistré avec énormément de musiciens très différents. Mais je crois qu'on ne l'entend pas aussi bien qu'ici, en train de discuter avec lui-même, en train de bâtir ou de nous ouvrir des sources rythmiques inédites. C'est très fort, c'est de très haut niveau, et j'aimerais bien que tout le monde puisse l'entendre, que ça devrait être édité sur disque. Mais si on lui faisait réécouter à Jack de Jonette, je crois qu'il aurait beaucoup de plaisir à se retrouver. Et peut-être à repenser aux conditions invraisemblables de ce concert. Comme je le disais tout à l'heure, il était entouré, mais à ses pieds. Et comment les preneurs de son ont-ils pu le cerner lui-même et effacer toutes les respirations qui étaient autour de lui? C'est vraiment un tour de force. Bon concert, beau concert. Merci Lina de les avoir conservés.
Donc, tous ces concerts, dont une grande partie sont uniques et n'existent que dans le fond, n'ont pas été publiés en CD. Est-ce qu'il y en a une exploitation aujourd'hui à la radio ?
De toute manière, la radio a toujours diffusé, a fait des journées spéciales, a rediffusé la musique vivante que la radio enregistre. Et d'autre part, donc, Jérôme Badini s'occupe de la programmation du jazz sur France Musique actuellement. Et lui, il a pris le parti, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, de rediffuser un concert d'archives.
Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. À la batterie, Elvin Jones.
Et tout ce qu'on trouve qui a été enregistré par la radio n'est pas du tout un disque du commerce. C'est de la musique qu'on appelle vivante.
À la contrebasse, Jimmy Garrison.
On a vraiment le témoignage de la vie du jazz en France qui continue jusqu'à aujourd'hui, parce que au départ d'André Francis, Xavier Prévost a pris sa suite et a continué d'organiser les concerts à la Maison de la Radio des musiciens de jazz français et étrangers.
Et le saxophoniste John Coltrane. John Coltrane interprétera un thème, enfin une composition en plusieurs mouvements qu'il a enregistré récemment en disque aux États-Unis. Le titre en est Love Supreme.
C'était le jazz, une aventure radiophonique. Deuxième partie, 70 ans d'archives, une mémoire vivante. Avec André Francis, Annie Lozana, Jonathan Fitoussi, René Hurtreger, Bobby Few et les archives du fonds INA Jazz. Attachés d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Irène Emelianenko, prise de son Jean-Pierre Pernel, Hervé Dubreuil, mixage Claire Levasseur, un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Christine Robert pour Sur les Docs.
Ce concert est donc terminé. Demain soir, vous pourrez retrouver John Coltrane. Comprenez, chers amis, que la musique ne se mesure pas au chronomètre, surtout l'art musical de John Coltrane. Il vient de nous donner le plus profond de lui-même. Permettez-lui de ne pas se répéter et de se reposer également.